Donc, deux courts-métrages qui ont, tous les deux, on va le voir, beaucoup de points communs. Le premier, hop, je vais passer sur l'autre slide. Le premier film, alors je vais parler des deux films en même temps, puisqu'ils ont des thématiques communes. Le premier court-métrage de 26 minutes, Moon Fruit, réalisé par Nicolas Hu, ça raconte l'histoire de Noé, une petite fille de 9 ans, qui arrive dans une nouvelle ville avec sa mère, elle rejoint sa mère dans une nouvelle ville, une ville fictionnelle qui se situe en Bretagne. On sent qu'elle vit toutes les deux modestement, elle vit au-dessus d'un restaurant de Moon Fruit sur le port, et Noé va découvrir groupe d'enfants qui pratiquent la voile, et elle va se prendre de passion pour la navigation et pour la voile. Mais cette passion va se heurter à plusieurs difficultés, à plusieurs réalités, notamment le manque de moyens de sa maman qui ne peut pas lui payer de cours, et puis aussi le rapport aux autres enfants. On va suivre cette histoire du point de vue de Noé. Le deuxième film, Les Astres Immobiles, réalisé par Noé Turner et Selena Peake. Ça dure 26 minutes aussi. Et là aussi, on a une jeune fille de 9 ans, qui s'appelle Chengua. Elle va préparer un exposé sur l'espace avec son meilleur ami Sofiane. Elle est passionnée par l'espace, mais malheureusement, elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire pour préparer cet exposé, puisqu'elle est sollicitée en permanence par ses parents qui sont immigrés chinois, qui ne parlent pas un mot de français et qui font appel à Chengua pour traduire absolument tout dans leur quotidien et qui font peser sur les épaules de la petite fille un poids quand même assez important. Et voilà, Chengua, elle rêve un peu de s'émanciper, de s'échapper un peu de ses contraintes quotidiennes, et de s'émanciper de sa famille. Et puis on va suivre un peu aussi sa passion pour l'espace. Je vous propose de regarder rapidement la bande-annonce pour que vous ayez un petit aperçu visuel de ces deux films. Voilà pour ces deux films. Donc, je le disais, ils ont tous les deux plusieurs points communs. On va en parler. Premièrement, évidemment, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Le fait que ce soit deux héroïnes, deux jeunes filles de 9 ans, qui sont toutes les deux animées par une passion très forte, et qui sont toutes les deux aussi confrontées à des difficultés d'intégration, finalement. Ce sont des films, vous le verrez, qui sont donc à hauteur d'enfant, qui abordent plein de sujets, plein de problématiques, je trouve intéressantes à aborder avec vos élèves. La question de... Alors, on va le voir dès le début, en tout cas pour le film Noé, du harcèlement, la question de la différence aussi, du regard des autres, la difficulté à trouver sa place aussi parfois dans un groupe, les relations avec les adultes aussi, et puis ça on va pas mal en parler, et la question de la passion, je trouve que c'est une thématique aussi peut-être intéressante pour les élèves de parler de la passion et de la passion comme moteur aussi. Ces deux films qui sont, je trouve, très bien faits parce qu'ils sont très sensibles, ils ont une belle approche sans être jamais vraiment, on va voir les différentes thématiques, mais sans être vraiment moralisateur, ils prennent une position, je trouve, assez subtile. Et puis, bon, graphiquement, c'est aussi très beau. Donc voilà, c'est des films qui se regardent très très bien, qui se comprennent très bien. On va parler de Noé, bon, on va parler aussi des deux films, mais notamment de Noé, puisque l'héroïne va être confrontée à plusieurs choses, comme je le disais tout à l'heure, notamment un manque de moyens financiers de la part de sa mère, et aussi, dès le début du film, on le verra, tout à l'heure on regardera un extrait, on apercevra un des personnages, elle va être confrontée au harcèlement. Alors, elle est à l'école de voile, elle n'est pas à l'école, on en parlait, elle est à l'école de voile, mais ça reste quand même du harcèlement scolaire, on va dire, puisqu'il y a un petit garçon qui s'appelle Gabin, qui va la voir arriver dans cette ville, hein, elle est nouvelle, et elle va la rencontrer la toute première fois, quand elle va mettre sa tête à la fenêtre de son appartement. Elle vit donc un appartement au-dessus d'un restaurant de moules frites. Et quand il va l'apercevoir, il va avoir sa tête juste à côté du gros néon, gros logo qui affiche Wulfrit. Et c'est là que Gavin va déjà commencer à se moquer, et c'est lui qui va lui donner ce surnom de Wulfrit, et va vraiment se mettre à se moquer d'elle constamment quand elle va venir à l'école de voile et essayer de s'intégrer, essayer de participer au cours. Il va aussi largement la prendre à partie devant les autres élèves. Donc bien évidemment, c'est un sujet d'actualité. Et on va voir aussi, on le verra un petit peu plus tard, mais comment Noé répond à ça et comment elle va réussir un peu à retourner la situation. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, je pense qu'on va regarder une petite vidéo sur le sujet, mais c'est aussi de montrer aux élèves que le harcèlement, il se vit de plusieurs manières, mais c'est pas forcément un harcèlement uniquement sur sa couleur de peau ou sur des choses comme ça, ça peut être aussi un harcèlement sur son milieu social, sur même le physique, hein, il y a même des critiques sur le physique, etc. Donc voilà, il y a plusieurs problématiques. Je vous ai préparé, ça, du coup vous connaissez déjà, je pense, mais l'émission J'ai une question un jour, qui aborde à chaque fois des petites des problématiques pour les élèves. C'est toujours, je trouve, un bon support pédagogique pour parler de sujets. J'en ai pris plusieurs aussi pour cette présentation. Et notamment, une question un jour, ils abordent la question du harcèlement scolaire. Ça peut être une façon de commencer à leur en parler aussi.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui lui?
Un jour, une question. C'est quoi le harcèlement à l'école? Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à trois. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. En général, la victime est ciblée parce qu'elle paraît différente. L'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines. Dans la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant harcelé n'est jamais tranquille. S'il va à l'école, la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il pourra lire à son sujet sur Internet. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, ses notes chutent, il perd l'appétit. Ces signes, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
Bonjour. Donc c'est le personnage de Gabin qui va venir un peu matérialiser cette question du harcèlement. C'est pas une question centrale dans le film, mais quand même, elle est abordée et ça permet du coup de l'aborder avec les élèves. Donc on verra aussi dans le film comment Noé va réussir à un peu à s'extirper de ça et à retourner cette stigmatisation. Notamment, je peux déjà en parler, mais pour vous faire un résumé un peu plus complet de l'histoire. Donc Noé, quand elle va découvrir cette école de voile, elle va vouloir d'abord participer au cours, chose qu'elle va pouvoir faire. Elle va réussir à trouver une camarade, Alix, qui va accepter d'être sa coéquipière. Elle va commencer à prendre des cours. Malheureusement, sa mère va lui dire qu'elle ne peut pas continuer parce qu'elle n'a pas assez d'argent. On sent qu'on reparlera des personnages tout à l'heure. Sa mère est en difficulté, elle travaille dans le restaurant de Wulfrit. On sent que voilà, elle porte, elle est seule et elle porte la responsabilité de Noé et de la situation financière de la famille. Donc Noé va essayer un petit peu de se battre contre ça, et notamment il y a une régate qui va s'organiser et elle va vouloir absolument participer. Là aussi ça coûte de l'argent pour participer. Elle va malheureusement, on en reparlera tout à l'heure, commettre un vol pour pouvoir payer sa participation, et puis on verra comment cette problématique va se régler, la problématique de ce vol. Et puis elle va faire la connaissance d'un personnage très important dans le film qui s'appelle Florence, qui qui est une ancienne navigatrice, qui va la prendre un peu sous son aile et qui va lui apprendre à naviguer. Et finalement, Noé va pouvoir participer à cette régate. Elle ne va pas gagner, elle va finir deuxième, mais elle va complètement s'émanciper et surtout elle va accepter à la fin de retourner un peu les moqueries de Gabin contre lui, puisqu'elle va monter sur le podium déguisée en Wolfruit, chose qui va faire rire tous ses camarades et tous les adultes, et on va sentir que le personnage de Gabin est un peu pris au piège face à la confiance en soi qu'a pu récupérer Noé. Et puis l'espèce de légitimité un peu qu'elle a gagnée aux yeux de tous. Donc on parlera de ce retournement, on parlera de la solidarité féminine avec le personnage de Florence, avec le personnage de la maman aussi. C'est une question assez centrale et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve dans les trois films, certainement celui-là, dans Les Astres Immobiles, même dans le film d'après Paille, la question de la solidarité féminine qui est très importante et qui est très bien mise en scène. Et puis un peu l'audace aussi de cette petite fille qui va prendre à bras le corps ses problèmes, à bras le corps aussi sa passion qu'elle découvre au tout début, et puis elle va se perfectionner aussi. On a un peu la même chose, le même parcours pour le personnage de Chenghua. Donc elle qui a cette charge mentale complètement disproportionnée pour son âge, puisque voilà, elle sert donc de traductrice à ses parents pour le quotidien, même pour son père, parce que le patron de son père l'appelle constamment, et elle doit traduire les ordres de son patron pour son père, elle doit traduire son contrat de travail, etc., parce que lui ne comprend pas comment ça se passe. Donc il y a une espèce d'inversion des rôles parent-enfant qui est assez parlante, et qui est, alors les réalisatrices du film expliquent qu'elles se sont inspirées d'une histoire réelle, d'une de leurs amies, qui leur a expliqué avoir vécu ça quand elle était enfant. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive. On va voir aussi l'importance de l'imaginaire et de la passion pour elle aussi, et cette importance de cette passion comme refuge. Voilà, elle, l'astronomie va lui permettre de vraiment s'évader de son quotidien. Il va symboliser l'espace, il va un peu symboliser cet ailleurs où les contraintes ne pèsent plus. Et puis l'intervention des adultes aussi, là il y a vraiment une problématique sur le rapport aux adultes, et notamment aussi une rupture qui se crée à un moment donné dans l'enseignement. Et c'est en fait sa professeure qui va réussir à débloquer un peu la situation, qui va se rendre compte des problématiques, puisque la petite Chenghua n'ose pas parler de sa situation familiale à l'école ou même à son meilleur ami Sofiane, elle lui cache la situation. Et c'est finalement sa professeure qui va se rendre compte du mal-être de cette petite fille, de la situation dans laquelle elle est, qui va essayer d'un petit peu de débloquer cette situation. Donc on verra aussi le rapport avec ce personnage-là. Et chose aussi intéressante, c'est le rapport à la technologie, puisqu'en fait, cette petite fille est constamment sur son téléphone, puisque ses parents lui téléphonent constamment pour lui demander des traductions, des choses comme ça. Elle est tout le temps en contact avec eux. Elle se sert aussi beaucoup de son téléphone pour sa passion, notamment elle écoute sur son téléphone, on verra tout à l'heure, des podcasts, des émissions sur l'astronomie, sur Thomas Pesquet, etc. Ça, c'est un outil qui l'isole et en même temps, c'est un outil qui lui permettra, enfin, qui permettra à la fille et à la mère de s'émanciper grâce à une application qui permet la traduction automatique. Et grâce à ça, elles vont réussir à un petit peu à s'extirper de leurs conditions. C'est intéressant de voir que là aussi, c'est assez nuancé, c'est de voir que cet outil est à la fois un piège et en même temps peut être aussi une solution dans certains cas. Donc voilà, on va voir un petit peu ces deux slides après. Alors oui, je n'ai pas pensé à vous le préciser, mais comme la dernière fois, je vous ferai suivre par mail les présentations au format PDF que vous voyez ici, que j'agrémente en général de quelques liens supplémentaires, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, on a toutes ces thématiques-là. Mais j'ai oublié quelques slides, mais c'est pas très grave. Hop, on va passer à celle-là directement. Alors, premier sujet qui peut être intéressant, je trouve, à apprendre avec les élèves, c'est la question de la passion. qui est un sujet passionnant, c'est le cas de le dire, je trouve. Puisqu'ici, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental pour les deux jeunes filles. Alors, on a évidemment la passion pour la voile, pour Noé. La navigation, la voile, ça va être une promesse de liberté, la promesse un peu d'une vie meilleure aussi, et en plus de cette évasion, ça va être aussi le fait de pouvoir s'intégrer à un groupe, puisque au début on comprend que Noé est seul, elle vient rejoindre sa mère qui vit seule aussi sur cette île, l'île de Bénac, et ça va être aussi un moyen donc de s'intégrer en société, puisque sur l'île on comprend que tous les enfants quasiment font de la voile, et ça va être aussi un espèce de levier de revanche un peu sociale sur sa condition, contre la pauvreté, contre les moqueries de gamins notamment. Et elle va, cette passion va aussi lui servir de moteur, puisqu'elle va être complètement omnibulée, elle va s'obstiner à apprendre, à se perfectionner, là où au début elle ne connaissait rien. Et ça va lui permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'assumer son identité et de pouvoir s'émanciper. La même chose pour Chengua, évidemment, avec sa passion pour l'astronomie, qui est un peu son jardin secret. Alors on verra avec ses parents, en fait, au début elle a beaucoup de mal à partager cette passion. Ses parents ne comprennent pas très très bien, elle essaie de leur traduire les termes, etc. Ses parents ont un peu du mal à comprendre sa passion pour l'astronomie. Alors elle a dans son jardin, elle a une petite cabane qu'elle s'est fabriquée. Et pour elle, cette cabane, c'est son vaisseau spatial, et elle s'enferme dans cette cabane, et à chaque fois qu'elle est enfermée là-dedans, elle s'imagine dans l'espace, elle s'imagine des aventures. Et voilà, il y a une petite dramaturgie là-dessus, puisqu'à un moment donné, le père de Chengua va démolir cette cabane, mais en fait pour lui reconstruire en mieux. Alors au début, pour Chengua, c'est un peu difficile, puisqu'elle ne comprend pas, elle pense que son père a décidé de tirer un trait sur sa passion, et puis en fait non, son père en fait veut l'aider, donc il y a une espèce d'incompréhension, comme il y a une incompréhension un peu linguistique parfois entre les deux, on verra un extrait tout à l'heure, et voilà, ils ont du mal à communiquer. Alors il y a un détail important, c'est que les parents de Chengua parlent donc chinois, et les réalisatrices ont fait le choix de ne pas sous-titrer toutes les scènes en chinois. Au début, sur le DVD, j'ai cherché les sous-titres, je pensais que c'était une erreur, mais non. C'est un choix délibéré pour justement placer aussi le spectateur dans cette espèce d'incompréhension et de flou un petit peu. Donc il y a plusieurs scènes, il faudra peut-être prévenir les élèves, mais il y a plusieurs scènes entièrement en chinois, et puis on voit justement la petite fille qui essaye parfois de traduire des termes qui a du mal, et l'incompréhension entre les deux. Et on verra aussi la passion. On regardera un extrait tout à l'heure, la passion, ou alors c'est maintenant, non c'est après, la passion de la petite fille pour Thomas Pesquet aussi. Donc, ça sera l'occasion de faire découvrir Thomas Pesquet aux élèves s'ils ne connaissent pas l'homme. Et elle va partager donc cette passion avec son meilleur ami Sofiane, on en reparlera tout à l'heure. Je vous propose de regarder un court extrait de ces moments de passion, puisque c'est, comme je disais, c'est des moments d'évasion. Et c'est mis en scène aussi dans le film. On reviendra à la fin sur l'aspect plus graphique des films, sur la question purement de dessin, etc. On va déjà un petit peu l'aborder sur ces extraits. Le premier est très court, sur Mulfrit, où Noé ne sait pas encore naviguer, mais elle découvre un vieux bateau, et elle va s'imaginer justement prendre le large. Et on va voir que le film met en scène cette rêverie, et la même chose pour Chengua, où elle s'imagine dans l'espace. Voilà, donc on a ces deux moments dans Les Astres Immobiles, il y a plusieurs moments comme ça où elle part dans l'espace. On a ces deux moments de rêverie, dans Mulfrit, cette navigation. Alors on voit que l'esthétique du film se modifie, hein, avec des couleurs qui deviennent plus vives, le trait hein, aussi qui s'estompe, tout ce travail, on regardera des extraits du making-of tout à l'heure, mais tout ce travail un petit peu sur l'aspect aquarelle, c'est des films qui ont été faits en numérique, mais qui ont cet aspect comme ça, dessin à la main, sur le film d'ailleurs, qui est très intéressant à voir. Et ces espèces de moments comme ça, hors du temps, qui permettent pour Noé de découvrir des sensations. Le plaisir de la navigation avant même de vraiment maîtriser en fait l'outil. Et puis pour Chenghua, cet aspect en apesanteur qui représente à la fois cet ailleurs et les sèches qui lui permettent de s'échapper de la gravité dans les deux sens du terme, hein, puisqu'elle va flotter, en même temps, elle s'échappe un peu de la gravité de son quotidien. Donc voilà, et dans les astres immobiles aussi, d'un point de vue graphisme, en fait, les moments de rêverie vont être beaucoup plus colorés, avec un trait beaucoup plus fin que dans les moments de réalité. Et c'est en tout cas un peu un refus de réalité pour cette jeune fille. Et qui va lui permettre, alors notamment elle a cette fameuse poule qui est dans son jardin et qui devient, quand elle est dans ses rêveries, la caporale Gisèle, avec qui elle parvient à communiquer. C'est un peu une des seules avec qui elle communique bien d'ailleurs, qui est son acolyte. Et puis on va voir que ces rêves, ça va aussi leur permettre justement, puisqu'elles vont réussir à accéder un petit peu à leurs rêves, en tout cas pour Noé, son rêve va lui... contre une espèce de moteur pour réussir à s'émanciper et surtout à concrétiser ce rêve-là, puisqu'elle va réussir à vraiment naviguer et à participer à cette régate. Et pour Chenghua, bon, elle va déjà réussir à partager sa passion avec ses parents au final. Puis il y a un joli plan de fin où elle est dans son costume de cosmonaute dans cet espace avec une étoile filante qui lui échappe des mains, qui lui montre un peu un nouveau chemin, qui lui montre un ailleurs, voilà, qui laisse présager pour Chenghua justement cette émancipation dont elle a tant besoin. On va parler des personnages dans le film. Ça, c'est extrait du... Je vous montrerai tout à l'heure des documents que vous pouvez retrouver sur le site du distributeur, les films du Préau, qui sont disponibles en téléchargement. On les regardera ensemble tout à l'heure. Ça, c'est extrait du dossier de presse. Et l'importance de ces personnages et de la problématique aussi, enfin de la question de l'amitié et de la solidarité. Puisqu'ici, alors pour le, on va d'abord s'attarder sur les astres immobiles, on a déjà ce personnage de Sofiane, qui est donc le meilleur ami de Chenghua, et avec qui elle partage sa passion pour l'astronomie. Ils doivent faire tous les deux cet exposé sur l'espace. Donc l'ami est aussi un moteur pour essayer de s'extirper de tout ça et de vivre cette passion. Cette importance, et on le retrouve aussi dans le Fritz, cette importance de l'amitié, je trouve que c'est aussi une thématique intéressante pour les élèves. Il est aussi un peu son confident, même si elle n'ose pas tout à fait lui dire ce qui se passe chez elle. Souvent elle va lui mentir, quand sa mère l'appelle, elle va dire « ma mère est bloquée, il faut que j'aille l'aider », etc. Alors que voilà, c'est juste que sa mère a besoin d'elle pour traduire des choses. Donc ça va être à la fois cette espèce de partage, de symbole un peu de motivation mutuelle. Notamment, il partage la passion pour l'astronomie, mais aussi pour la personne de Thomas Pesquet. Ils s'envoient tous les deux. Il y a une espèce de série de podcasts sur internet ou avec des interviews de Thomas Pesquet. C'est Sofiane qui va envoyer ça à Chenghua sur son téléphone en lui disant: il faut absolument que tu écoutes ça. À 19h, à chaque fois, il y a une émission avec Thomas Pesquet. Et elle va essayer d'écouter ça un peu à table, un peu en cachette avec ses parents. Ça va revenir plusieurs fois dans le film. Et on verra l'extrait tout à l'heure. Chenghua essaye à un moment d'expliquer à ses parents qui est Thomas Pesquet. Elle a un peu du mal avec ça. Je ne sais pas si vos élèves savent qui est Thomas Pesquet, c'est pas sûr. L'émission Un jour une question a fait notamment une vidéo sur Thomas Pesquet. Ça peut être l'occasion de présenter la vidéo d'époque, mais ça permet cette petite introduction. Donc le personnage de Sofiane et sa maman Tabia aussi, on va le voir. Permet de mettre en lumière plusieurs choses, et notamment il y a un contraste qui va être assez présent. Je pense qu'on va regarder l'extrait un peu plus tôt que prévu. Il y a un contraste assez présent entre le foyer de Sofiane et le foyer de Chenghua, puisqu'on va voir que la maman de Tabia, elle est très, très impliquée, puisqu'en fait Chenghua va à chaque fois travailler son exposé chez son amie Sofiane, Et on va voir que Tapia, elle essaye de les encourager. À un moment donné, elle vient leur prêter une calculette pour leur exposer. Et Chengua trouve ça absolument incroyable que sa mère participe à ce point-là. Voilà, ça se dénote complètement avec l'ambiance de son foyer. Et on va sentir, on va voir que Sofiane se pose d'ailleurs des questions, puisque pourquoi elle trouve ça si formidable que sa maman, que la maman vienne juste leur prêter un outil. Donc on va sentir très clairement ce contraste, et on verra tout à l'heure aussi, puisque là où Chengua, quand elle est à table avec ses parents, on sent que la communication est difficile, on va voir Sofiane à table avec sa maman, en pleine conversation, on va voir que l'ambiance est quand même différente. Et puis le fait que Chengua aussi maintienne un petit peu cette digue, puisqu'elle elle cache cette situation. C'est d'ailleurs la maman Tabia aussi qui va finir par comprendre un peu ce qui se joue. Et le fait de pouvoir, alors comme je disais, Chengua, elle vient travailler dans l'appartement. C'est aussi cet appartement qui va être important, puisque c'est l'espace où Chengua va justement un peu se révéler. Puis ça sera aussi le lieu de fin, à la fin de l'histoire en fait. Pour vous résumer, Chengua à un moment donné en a marre en fait, et décide de partir, de quitter la maison sans son téléphone, chose qu'elle ne fait jamais d'habitude. Elle laisse son téléphone à la maison et elle s'en va pour travailler son exposé chez Sofiane. Sa maman rentre à la maison, la maman de Chengua, et puis elle est prise de panique parce qu'elle voit que sa fille n'est pas là, qu'elle a laissé son téléphone à la maison. Et elle va devoir vouloir retrouver sa fille. Donc elle va prendre le téléphone de sa fille, elle va réussir à retrouver quand même les coordonnées de Sofiane dans le téléphone, même si elle ne comprend pas tout ce qui est écrit, mais elle finit par réussir à trouver l'adresse. Et grâce au téléphone, elle va, et au GPS sur le téléphone, elle va sortir de chez elle, elle va courir dans les rues, et on va voir, c'est assez bien fait, on va voir qu'elle est complètement perdue dans ces rues, parce qu'à chaque fois qu'elle essaye de lire des panneaux, le nom des rues ou une station de bus, etc. Ben en fait, voilà, visuellement, c'est écrit, c'est une espèce de verrouillage, parce que la mère n'est pas capable de lire ce qu'elle voit. Et finalement, elle va demander à une jeune fille, à un arrêt de bus, elle va essayer de lui demander son chemin. Et la jeune fille, comprenant que la maman ne parle pas français, elle va lui essayer de traduire la conversation grâce à une appli sur son téléphone. En traduction instantanée, elle va parler, ça va traduire directement en chinois. C'est un peu la révélation pour la maman qui se dit « Ok, c'est la clé, c'est mon outil pour me sortir de cette situation. » Et donc elle va partir, elle va réussir à trouver l'appartement de Sofiane, à retrouver sa fille et à lui montrer que voilà, elle a trouvé une solution, voilà cette appli de traduction. Et là, le dialogue va s'enclencher, elles vont réussir à partager. Et la mère va découvrir l'exposé et elle va leur faire des retours via cette application, etc. Il y a un moment de complicité qui se crée à la fin. Mais ce moment de complicité, de retrouvailles et de ce déblocage, on va dire, se crée dans l'appartement de Tabia et de Sofiane. Cette espèce de cocon qu'on avait déjà découvert un peu en amont et qui est ce cocon un peu sécurisé, qui est très beau. Je vous propose de voir, on va regarder l'extrait maintenant, on va en parler un petit peu. Avec justement Chengua qui est à table avec ses parents le soir, qui veut écouter l'émission sur Thomas Pesquet, et qui va essayer d'expliquer à ses parents qui est Thomas Pesquet. Et ensuite, un questionnement un peu de Sofiane sur cette situation. Voilà. Un extrait qui est, je trouve, intéressant dans la façon dont il est composé. Vous pouvez le retrouver aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur le site, je n'ai pas revérifié, sur le site Nanook, aussi sur lequel vous pouvez vous connecter. Il y a également des documents pédagogiques sur le film. Il me semble que c'est cet extrait qui est sur Nanook, qui sert un peu d'analyse de séquence, on va dire, peut-être intéressant aussi à revoir. Avec donc cet outil, le téléphone qui est constamment présent. On a beaucoup de, pendant le film, beaucoup de gros plans d'ailleurs sur ce téléphone. Et Chengua qui est donc dans ce quotidien, là, on voit déjà sur l'expression hein, des visages des personnages, évidemment, on voit un petit peu ces personnages qui sont un peu bloqués dans leur quotidien. On voit aussi hein, déjà ici graphiquement la façon dont est fait, je trouve que c'est très beau, on en reparlera tout à l'heure, mais la façon dont est dépeint le quotidien, avec ce côté à la fois assez épuré et crayonné. Et le personnage de Chiang Wai qui a... Hop là, je suis parti. Qui est un peu isolée en fait par rapport aux autres. Elle va être souvent vue en gros plan, on va être focalisé sur son visage, sur ses mains hein, principalement, avec, face à l'incompréhension un peu de ses parents. Là c'est quand même un moment, il y a une autre séquence avant qui est un petit peu plus tendue, là c'est le moment où les parents essayent un petit peu de s'ouvrir, mais persiste quand même cette problématique un peu de dialogue, de langage. Voilà, puisqu'ils comprennent que leur fille veut écouter cette émission. Et on a à la fois le problème d'incompréhension et de... on voit sur le père, mais en même temps le besoin de s'ouvrir un peu aux autres. Et surtout le fait que Cheng Hua, et c'est assez joliment mis en scène, la façon dont elle va s'ouvrir justement, quand elle va ouvrir les mains, elle va s'ouvrir à ses parents, avec cette espèce d'effet un peu de transparence sur cet univers, cet espace qui est déjà un peu là, et puis ensuite on va le retrouver pleinement, j'allais dire plein écran, mais cet espace qui est là, qui s'échappe d'elle, et ses parents qui essaient de comprendre. C'est une scène que je trouve assez touchante. On comprend très très bien les problématiques un peu des deux, et puis la différence aussi. De foyer. Alors là, c'est justement un moment de rapprochement qui est assez beau, hein, et on les voit à la fin finalement tous les trois dans le cadre. C'est un moment qui est quand même assez beau, et on voit un peu le contraste avec le moment de dialogue entre Sofiane et sa maman. Et puis sa maman qui vient lui révéler aussi qu'elle a vécu une situation assez similaire quand elle était enfant, et qui va expliquer, donner cette clé aussi à Sofiane. Pour lui expliquer que ce qu'il arrive à Cheng Hua, bah, c'est une situation qui est assez compliquée et qu'il faut en fait la soutenir aussi dans ce moment-là. Je reviens sur les personnages et cette fois-ci on va parler de Moulfrid. Voilà, toujours extrait du dossier de presse. Moulfrid, elle, on en a parlé tout à l'heure, il y a son désir d'intégration dans cette société, et ça va passer aussi par ces personnages, donc la maman, hein, et on la voit tout au long du film, hein, visuellement, on voit qu'elle a les traits tirés, elle est fatiguée. On a ce personnage de Florence qui est très clairement inspiré de Florence Artaud, qui est au début très mystérieux, qui va finir par s'ouvrir petit à petit à Noé, puisque ça va devenir très clairement la figure du mentor pour Noé. Le personnage d'Alix qui va être sa coéquipière, qui va aussi beaucoup l'aider, lui apprendre les rudiments de la voile. Puis le personnage du patron qui a aussi qui a un moment important, puisque le patron il va être là pour essayer de la remettre un peu sur la voie, puisque on en reparlera rapidement tout à l'heure, mais il y a ce moment où Noé va voler dans la caisse du restaurant, va voler un billet de 20 euros pour pouvoir payer son inscription à la régate. Le patron va s'en apercevoir, et quand on va finir par savoir que c'est Noé qui a volé cette somme, il va lui donner sa chance et essayer de lui expliquer comment un peu se racheter. Il va lui faire faire des petits travaux au restaurant pour qu'elle paye sa dette, on va dire, de manière très, très bienveillante. Et en même temps, en lui apprenant, j'allais dire, une leçon sur tout ça. Mais donc, d'abord, on a ce personnage, et notamment le personnage de Florence, qui est très important. Cette skippeuse, alors on comprend que c'est une skippeuse qui est à la retraite et qui a visiblement subi un traumatisme, une perte. C'est pas vraiment expliqué très clairement dans le film, mais on sent qu'elle a une blessure assez profonde, qu'elle est très renfermée, et qui va découvrir ce personnage de Noé qui est très qui est cette débutante comme ça, assez fougueuse. Et notamment, on va regarder l'extrait. Noé va vouloir, à un moment, elle va décider de prendre le bateau, d'aller en mer, sans vraiment d'expérience. Malheureusement, elle va tomber à un moment donné où la météo est capricieuse, elle va être prise dans une espèce de petite tempête, et c'est Florence qui va venir la sauver, et qui à ce moment-là va décider de lui expliquer comment les rudiments de la navigation, et c'est ça qui va acter un peu le moment où elle va devenir son mentor, et qui va un petit peu lancer ce mentorat, et avec des très belles scènes. Donc elle va la sauver de la noyade et lui permettre de maîtriser la technique. Elle va lui apprendre des manœuvres, elle va lui apprendre comment s'occuper de la voile, etc. On comprend que le personnage a visiblement un peu vécu la même situation en France. C'est pareil, c'est pas dit très clairement, mais on comprend qu'elle se retrouve un petit peu aussi dans cette petite fille. Et elle va être, elle aussi, un peu comme le personnage de Sofiane dans Les Astres Immobiles, elle va être le moteur pour Noé, pour avancer, pour légitimer aussi son rêve, son besoin, et son audace aussi, parce que le chemin de Noé, il est assez audacieux, hein, de voir la détermination de cette petite fille, c'est quand même assez, assez beau, et le dépassement de sa condition aussi. Après, il y a beaucoup de plans à la suite, donc c'est un montage quand même, on le voit, pour créer ce sentiment un peu d'urgence et dans lequel est Noé et d'action. Et en même temps, on voit, alors c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs plans qui sont, je vais y arriver avec ce vecteur, c'est pas évident. Il y a plusieurs plans qui sont quasiment en vue subjective, comme ici avec le plan sur la voile qui va répondre à un autre plan ensuite quand elle finit par réussir à maîtriser cette voile. Et puis le fait que, alors en plus on vient la mettre dans l'espace, on vient montrer aussi où elle se trouve dans la mer, et le fait qu'elle s'éloigne petit à petit. Et là aussi, en vue subjective, l'eau qui monte dans le bateau, cette panique qui va se créer. On parlera tout à l'heure de l'importance aussi de la météo, de la lumière. Et on vient vraiment isoler Noé dans le plan, elle est toute petite, on sent qu'elle est vulnérable et qu'elle est en train justement de perdre pied, et c'est là que intervient ce personnage de Florence. On voit le rapport hein, aussi évidemment entre les deux, hein, Noé qui lève les yeux, et ce plan, c'est intéressant parce que le découpage à la fois, enfin, dans les deux films, il y a un vrai découpage, une vraie mise en scène, comme si c'était une mise en scène réelle avec de vrais comédiens, c'est très subtil je trouve. Et donc ici, on a cette contre-plongée très importante sur le personnage de Florence, qui au début, comme ça, est assez inquiétante. Et puis on voit au fur et à mesure cette relation, puisque on va voir le beau temps qui revient, on va dire, et Noé qui va réussir à prendre... Alors c'est un espèce de montage qu'on retrouve dans beaucoup de films, quand le personnage principal... apprend des choses et évolue. On a cette espèce de montage aussi assez rythmé où on la voit apprendre les différentes techniques. Et puis surtout, voir. Alors voilà, on a ce plan qui répond un peu à l'autre hein, sur la voile. Elle apprend les nœuds, etc. Et puis, voilà ce plan-là. Et puis surtout, l'espèce de champ contre champ, ce regard complice entre les deux, la relation qui se crée, et puis le fameux personnage de Gabin qui est là. Qui ne supporte pas de voir Noé évoluer. Donc on a ici, on a la naissance de cette relation qui est assez belle dans cette scène. Le personnage de Florence, elle va lui expliquer à un moment donné, j'ai noté la phrase, mais elle va lui expliquer que la récompense, elle réside dans le chemin parcouru et la confiance acquise, et pas uniquement dans le fait de gagner une course, une régate, mais que... voilà, son émancipation et sa récompense, elle va passer par cette maîtrise et cette confiance en soi aussi qu'elle va gagner. Je reviens sur la fiche des personnages. Et puis, le personnage de Florence va aussi, on va y venir, servir de pont entre les générations, puisqu'elle va servir un peu de médiatrice entre Noé et sa maman, notamment au moment où... Noé va donc voler cette somme d'argent. La maman va être très en colère, évidemment. Et Florence, elle, va essayer de servir de médiatrice un petit peu. Et notamment, elle va être aussi une révélatrice du talent de Noé pour sa maman, puisqu'elle va, à un moment donné, inviter la maman de Noé sur son bateau, qui s'appelle la Bonne Étoile. Elles vont faire une sortie en mer, et puis elle va demander à Noé de s'occuper un peu de la voile, etc. Et elle va montrer à sa maman comment elle se débrouille bien, et que... Non, elle est faite pour la voile et il va falloir qu'elle arrive à s'émanciper et à participer à cette régate. Cette problématique de la régate, hop, je crois que j'ai une petite slide là-dessus, c'est la notion de la faute que va commettre Noé, puisque donc elle va voler ses 20 euros dans la caisse du restaurant. Il y a évidemment de la part de la maman et de la part du patron au début une colère, une frustration, mais Noé va très vite se dénoncer, on va dire. Elle va présenter ses excuses aussi. Elle va reconnaître qu'elle a fait une grosse bêtise. Et il va y avoir une volonté de réparer la faute. Et donc, le patron va lui demander de participer, donc de faire un plat plonge, il va lui faire repeindre les volets du restaurant, etc. Il lui dit, ben voilà, il faut que tu apprennes aussi de tes erreurs et gagner un petit peu, à prendre la responsabilité un peu de ton acte et prendre cette problématique à bras le corps. Et en fait, le personnage de Noé va complètement accepter ça, c'est assez beau aussi à voir. Elle accepte cette réparation et elle va mettre tout son cœur dans ses différentes tâches. Donc il y a cette espèce d'incompréhension au début avec sa mère, hein, qui lui explique que, voilà, que ça met en péril un peu sa relation avec son patron, que ça peut mettre en péril son travail, etc. Et puis évidemment que ce n'est pas des choses qu'on peut faire. Et au fur et à mesure de Noé, la vraie volonté de réparer sa faute, il va y avoir une relation qui va se recréer avec sa mère et Florence aussi, donc qui va jouer un peu ce tiers de confiance. Elles vont beaucoup discuter, etc. Et le personnage aussi d'Alix, on n'en a pas parlé, mais qui va faire pas mal de lobbying auprès de la maman de Noé pour lui demander, pareil, lui expliquer que Noé est doué et qu'il faut accepter. Finalement, la maman va finir par être touchée par les efforts de sa fille, elle va finir par changer d'avis pour la régate, hein, puisque au début elle était punie aussi, elle ne pouvait pas participer à cette régate à cause de ça. Et finalement, elle explique qu'elle a trouvé un arrangement avec Florence, qu'elle va pouvoir faire des cours de voile et qu'elle va aussi pouvoir participer à ce concours. Et on va avoir des retrouvailles avec la mère à la fin de la régate et une complicité qui renaît entre les deux. Une question sur l'esthétique des films. On va aborder la question aussi, parce que c'est intéressant d'en parler avec les élèves, puisqu'on est dans du dessin animé, comment l'esthétique de ces lieux. Alors, moi je trouve le film Wilfried très très beau, notamment dans la façon dont les paysages bretons, même si c'est une île fictive, mais on reconnaît très bien les paysages bretons, et la façon dont c'est dessiné avec une très grande justesse, vraiment c'est très très beau. Il y a des moments où Noé part se balader en vélo, etc. Et via le dessin, on sent cette espèce de vent de liberté, de ce côté un peu paisible aussi de cette île. C'est très bien fait. On va écouter tout à l'heure le réalisateur Nicolas Hu qui va parler un peu de la façon dont ils ont travaillé. Et sur les astres immobiles, on l'a déjà vu tout à l'heure sur l'extrait, ce trait crayonné qui est aussi très beau, je trouve très sensible. Qui a ce côté, c'est marqué ici, mais à fleur de peau, et qui va être, on verra, on va le voir dans les autres slides, mais il y a un moyen aussi assez malin de mettre en avant certains aspects importants dans la vie de Cheng Hua via le dessin aussi. Il y a une importance, ça c'est pris d'un dossier pédagogique qu'on regardera tout à l'heure, dans la mise en scène. Je disais tout à l'heure que la mise en scène est très subtile. Et ici, alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant de décortiquer avec vos élèves. C'est ce rapport entre les émotions de Noé et la météo. On l'a vu déjà tout à l'heure dans l'extrait. De voir comment la météo reflète les humeurs de Noé. Et c'est toujours assez juste, assez pertinent, je trouve, comme approche. Puisque au départ, alors c'est la case du bas, l'enthousiasme, mais c'est au départ l'arrivée de Noé sur cette île, qui est plein d'espoir, plein de promesses. Et on a ce soleil radieux, ces très beaux paysages, hein, ce vert et ce bleu qui se mélangent. On sent qu'elle s'évade. Et puis au fur et à mesure des épreuves, le temps qui va commencer, on a cette inquiétude quand elle va commencer à être victime de moqueries et avoir du mal à s'intégrer. On a le temps qui va un peu se gâter, ce ciel gris qui va apparaître, qui va refléter son inquiétude et son rejet. C'est la même chose d'ailleurs quand elle va rencontrer le personnage de Florence, qui est au départ très mystérieux, très fermé, elle est représentée pareil sous un ciel très sombre. Et puis l'orage, la tempête, quand elle est dans un moment, dans ces moments de crise, notamment après le vol, etc., de l'argent, toutes les émotions négatives qui ressortent, et donc cette pluie qui tombe, le vent qui se lève, l'orage, quand elle se sent humiliée aussi par Gabin, ça va apparaître. Et puis la rage qui va se transmettre donc par les éléments de la météo. Et puis au fur et à mesure, l'apaisement qui va revenir, hein, on voit en bas la sérénité. Après cette tempête émotionnelle, hein, c'est le terme qu'on utilise aussi pour les enfants, ben voilà, ça va laisser place à un ciel un peu plus nuageux et qui commence à s'éclaircir. Il y a la réflexion face à la mer, le fait que Noé est un peu plus apaisé et prend en main un peu son destin. Et puis cette joie qui revient quand elle finit par maîtriser son bateau, elle va maîtriser, entre guillemets, aussi un peu les éléments. Et le soleil revient. Et on l'a vu tout à l'heure, notamment sur les moments de complicité avec Florence, ces moments plus apaisés. Donc il y a visuellement, il y a cette... alors ensuite, j'ai des petites slides, voilà. Sur l'aspect, le travail visuel, ça c'est des dessins qui proviennent, on verra tout à l'heure, c'est des dessins préparatoires, mais qui étaient là justement pour montrer à quoi va ressembler le film, sur l'île, le port, etc. On voit cette importance aussi de ce travail sur les couleurs qui a été fait, et cette espèce d'effet aquarelle qui est très très beau. J'en suis où ? Je pense que j'ai mis une slide. Non, c'est ça, je suis au bon endroit. Oui, cet effet aquarelle. Alors donc le film est complètement numérique, en fait, pas du tout fait en animation, j'allais dire traditionnelle papier, ça se fait très peu maintenant, voire quasiment plus, mais on arrive à recréer ces traits comme ça, et cette espèce d'effet à la fois de pinceau, de peinture, de crayon. Et c'est fait de manière très subtile et qui va montrer aussi cette ambiance très particulière de cette île, hein, cette espèce de bulle dans laquelle évoluent nos personnages. L'importance des couleurs aussi, on l'a dit, hein, ce contraste entre le vert, le bleu, le jaune aussi de Noé qui est très présent tout au long du film. Et puis le cadrage, alors, comme je le disais tout à l'heure, la mise en scène aussi est très subtile. Il y a quelque chose, alors je ne vais pas spécialement développer, mais il y a un point commun entre les deux films, c'est le fait aussi que les deux héroïnes sont régulièrement isolées dans le cadre, en fait. On va beaucoup se concentrer sur elles, sur leur visage, etc. Et elles vont assez peu être mélangées au reste des personnages, c'est intéressant en termes de choix de mise en scène. Il n'y a qu'à la fin, quand les choses vont un petit peu se décanter et se régler, que les personnages vont se retrouver au milieu d'une foule, au milieu d'autres personnages, mais très souvent, pendant tout le film, on va noter que notamment le personnage de Noé, ben, en fait, elle est un peu toute seule de son côté, dans son parcours, comme Chengua. J'avais aussi un petit dessin préparatoire des astres immobiles, donc on voit très bien cet aspect crayonné, en même temps assez minimaliste. Et notamment, ils ont fait le choix visuellement de... il y a plusieurs scènes où le décor est assez comme ça, un côté presque un peu pastel, des traits très très fins. Et par contre, quand là, on ne le voit pas vraiment, mais quand il y a un objet important, et notamment le téléphone, quand il y a un objet important, et puis la cabane aussi, un objet important dans le cadre, il va être beaucoup plus crayonné, avec une couleur beaucoup plus vive par rapport au reste du décor, pour montrer un peu ces lieux, ces moments, ces choses, notamment l'exposé aussi, tout ce qui compte un peu dans son quotidien, c'est fait de manière très subtile. Je vous propose d'écouter le réalisateur de Moules Frites, Nicolas Hu, qui parle de la fabrication du film, justement des différentes étapes de fabrication de ce film. J'ai oublié d'en parler effectivement, mais l'importance de la musique et des bruitages dans Moules Frites, qui sont faits par un seul homme, qui d'ailleurs, il le dit dans certains textes préparatoires, qui est lui aussi d'ailleurs passionné par la voile, donc il était très heureux de travailler sur ce film. Et il y a un vrai travail très minutieux sur les bruitages, Donc ça peut être intéressant aussi de proposer aux élèves de se concentrer là-dessus, sur tout le travail qui est fait, sur le vent, les différents éléments des bateaux, et toute l'ambiance autour du port, etc. Donc beaucoup de parce que c'est quelque chose dont on oublie parfois d'en parler, mais l'importance du son dans les films, et notamment des ambiances, des bruitages, parce que c'est ça qui va nous plonger, et encore plus dans un film d'animation, c'est ça qui va nous plonger littéralement dans un univers. On dit très souvent quand on fait un film que c'est presque plus important d'avoir un bon son et une mauvaise image que l'inverse. Et là, ça peut être intéressant de se concentrer là-dessus. Et puis sur la musique, effectivement, qui à la fois parfois vient souligner les différents moments, les différentes émotions de nos personnages. Et puis en même temps, notamment à la fin, sur la régate, on a une musique qui se rapproche un petit peu des musiques bretonnes, même s'il a essayé de ne pas faire non plus il explique lui-même dans le folklore pur, mais en tout cas il s'est inspiré d'instruments bretons, etc., pour créer cette musique. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire un petit focus là-dessus. Et dans Les Astres Immobiles, il y a aussi tout un travail graphique très intéressant avec les réalisatrices qui expliquent aussi qu'elles ont délibérément voulu un tout petit peu déformer les traits des personnages, et notamment elles ont accentué les mains. Les mains sont un petit peu disproportionnées par rapport au reste du corps, mais sinon c'était voulu. Pour les moments où Chengua se retrouve dans l'espace et flotte, elle voulait que, d'un point de vue un peu corporel, visuellement, elle voulait créer cette espèce de fluidité et cette importance du corps, et donc elles ont travaillé, et on le voit dans certains extraits, la façon dont elles bougent un petit peu dans l'espace, elles ont travaillé vraiment sur le corps, et en même temps aussi beaucoup de gros plans dans le film, sur les expressions, sur les yeux, sur la bouche, etc. Il y a le moment, d'ailleurs je crois que j'ai oublié d'en parler, je m'en aperçois maintenant, mais il y a aussi cette scène importante, oui j'ai complètement oublié d'en parler, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, ce moment important où Chengua va, enfin la professeure de Chengua va finir par comprendre la situation, je pense à ça parce qu'il y a un détail de mise en scène là-dedans, puisqu'il y a un moment donné où Chengua est en classe, elle est assise à côté de Sofiane, et puis elle reçoit un coup de téléphone du patron de son père, et elle doit absolument le prendre, donc elle va se cacher sous sa table, et elle va répondre au téléphone, et puis son institutrice va s'en rendre compte, donc au début elle va évidemment lui confisquer son téléphone, et elle va lui demander des explications, elle va convoquer sa mère, et puis quand elle va se retrouver face à Chengua et à sa maman, elle va expliquer à sa mère ce qui se passe, que c'est évidemment un problème, que c'est inadmissible que sa fille ait un téléphone et qu'elle téléphone pendant la classe. Et elle va finir par s'apercevoir qu'en fait, tout ce qu'elle dit, la maman de Chengua ne le comprend pas. Et elle va prendre conscience de cette situation et dire « Ok, il y a un problème, effectivement, cette petite est face à une vraie problématique. » Et je pense à ça parce qu'il y a aussi un moment de mise en scène où on va, dans cette scène-là, s'attarder aussi sur des détails, des gros plans, des visages à la fois de Chengua, du visage de l'institutrice, où on vient notamment il y a des gros plans sur la bouche avec des contre-champs sur le visage de la mère qui ne comprend pas et qui essaye de comprendre sur la bouche mais évidemment qui n'arrive pas à comprendre, donc on a aussi cette mise en scène qui est très intéressante sur l'incompréhension. Voilà, c'est un moment clé, j'avais oublié de l'aborder. Différentes, et après je vous montre les documents, donc évidemment différents enjeux pédagogiques, on en a parlé en début de présentation, mais les différentes thématiques, donc on a parlé de la solidarité, de l'amitié. Alors il y a aussi une vidéo qui a été faite, je ne l'ai pas mise, mais parce que je me suis dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup, mais de un jour une question sur la solidarité, vous pouvez la trouver sur YouTube, qui peut permettre d'aborder un peu cette notion. Donc la solidarité, la passion, on l'a dit, la famille, le langage aussi, on peut l'aborder de différentes manières, la condition sociale aussi. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi? L'expression des émotions, parce que c'est intéressant, et je trouve que le passage de météorite, enfin tout l'aspect autour de la météo, ça peut être intéressant sur l'expression des émotions. Voilà, le vivre ensemble, je me suis noté aussi, la solidarité, je l'ai dit, l'empathie aussi. Mais voilà, c'est deux films, je trouve que ces deux films sont évidemment très faciles à comprendre pour les élèves, et qui en même temps abordent des sujets très riches et très variés, et de manière, comme je le disais, très subtile, je trouve, jamais moralisateur, et Et voilà, qui sont très beaux. J'ai testé pour vous, je l'ai même montré à ma fille de 4 ans, qui est bien aidée. Elle n'a pas, je pense, toutes les utilités, mais enfin, en tout cas, qui a passé un bon moment aussi. Je voulais vous montrer les documents pédagogiques que vous pouvez retrouver sur le site des films du Prévost. Est-ce que je vais essayer de vous les montrer comme ça? Donc, je vous mettrai des liens dans le PDF. Ils sont là, il y en a plusieurs. Je me suis appuyé là-dessus moi pour préparer ma présentation. C'est par là. Alors ça c'est notamment, bon, vous avez le dossier de presse, etc., des extraits, des photos, mais vous avez aussi ces fiches pédagogiques que vous pouvez télécharger avec qui est plutôt bien fait, je trouve, avec des petits jeux, notamment que vous pourrez proposer à vos élèves autour du film. Alors déjà, souviens-toi du film, ça peut être intéressant aussi hein, de reparcourir des moments du film avec eux, qu'ils puissent résumer un peu cette histoire. Bon, je passe assez rapidement, hein, parce qu'il y a pas mal de pages. La même chose pour les astres immobiles. Ça, je l'ai mis dans le slide déjà, la tempête des émotions, je trouve que c'est une porte intéressante. Là aussi, voilà, tout le travail, nommer aussi les différentes émotions et avec quoi elles peuvent être reliées. Il y a aussi quelques exercices, même sur le dessin même, ce que je trouve intéressant, d'aborder aussi bah, purement l'aspect graphique aussi hein, du film, en le mettant au service aussi de différentes émotions. Voilà, après il y a des ateliers un peu plus pratiques, mais faire un pliage, construire un voilier, vous pouvez même découper la petite noé pour la mettre sur un bateau. Ça, c'est assez ludique. Et puis, là, ils ont mélangé les deux films. Il y a aussi tout un travail sur l'univers de ces films-là, le langage aussi, donc là, le système solaire. Bon, là, vous pouvez même faire des crêpes. C'est le moment. La station spatiale internationale, pareil, je ne l'ai pas mis non plus, mais dans un jour, une question, il y a aussi une vidéo sur l'ISS. Que vous pouvez retrouver avec mon Thomas Pesquet, on en a parlé tout à l'heure. Voilà les différents éléments de langage autour de la voile, nommer, connaître les différents termes techniques d'un bateau, ça peut être intéressant aussi. Les constellations pour l'espace. Voilà, donc plein de choses. Bon, après, voilà, il y a différents exercices. Quand je serai grand aussi, je trouve ça assez intéressant à faire. Leur rêve, en fait, quand je serai grand, la passion, le rêve à dessiner aussi. Voilà, c'est différentes portes d'entrée que je trouve plutôt bien faites depuis le lexique. Voilà. Donc ça se télécharge gratuitement, puis il y a même une bibliographie aussi. Ça se télécharge gratuitement sur le film, sur le site des films du Préau, et vous pouvez trouver aussi, hop, je crois que c'est aussi sur le site des films, mais j'ai un doute si c'est, oui, si c'est sur le site des films, parce que sur Nanook aussi, vous pouvez trouver des choses. Mais vous avez Cinéphilo, je m'en suis aussi servi pour ma présentation, sur voilà, différentes questions qu'on peut se poser autour du film. Voilà, là, il propose aussi, pareil, toute une liste d'objectifs pédagogiques sur qu'est-ce qu'on peut aborder autour du film et les différentes questions qu'on peut se poser. Voilà, parler des titres, alors c'est vrai que je vais parler du titre, hein, capitaine. Pourquoi ce titre capitaine? Bien évidemment, on a le capitaine du bateau, le capitaine de la mission, le capitaine de cette fusée, la mission spatiale. Et le fait qu'elles prennent aussi toutes les deux en main, elles sont un peu capitaines de leur vie, hein, elles prennent toutes les deux en main leur passion. Voilà, ben, parler de leur passion, il y a différents questionnements là-dessus. La passion comme évasion. Pourquoi Noé se sent rejeté aussi, voilà, on en a parlé. Donc il y a différentes pistes, vous avez un peu plus de questions que ce que j'ai mis dans les slides. Ça peut aussi du coup vous aider dans cette approche. Le harcèlement, la solidarité, les tâches de Chengua. La rencontre avec la maîtresse, vous verrez du coup la scène. Le téléphone portable aussi, je trouve que c'est intéressant d'en parler avec eux, et de voir cet outil, de voir comment il peut être utilisé aussi. Voilà, donc ça, je vous mettrai le lien. Et puis aussi, là, c'est pour aller un peu plus loin, mais ça peut potentiellement vous servir. Je peux vous montrer que celui de Moultrie, parce que celui des Astres Immobiliers, je n'ai pas réussi à le télécharger. Ça se consulte en ligne. C'est les Bibles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une Bible sur un film ou une série. C'est un document préparatoire qui permet aux équipes soit de trouver un producteur, soit de trouver un diffuseur. Là, je pense que c'est la... C'est même sûr, c'est la Bible pour trouver un diffuseur, parce qu'il y a déjà la prod qui est là. Et donc c'est un document, là il y a 100 pages, hein, c'est un document assez conséquent, peut-être que vous pouvez piocher des choses dedans. C'est un document qui, voilà, qui est là pour donner envie à des diffuseurs d'acheter le film. Donc vous retrouvez dans le... Ça, ça se télécharge sur Internet, je vous mettrai le lien. Et en fait, vous pouvez trouver à la fois tout le scénario du film déjà. Bon, c'est un peu long. Et vous avez absolument tout le scénario. Pour ceux qui sont curieux de lire un scénario de film d'animation, vous en avez un à disposition. Et vous pouvez le comparer aussi avec le film, ça serait intéressant. Hop là, je suis allé un peu trop vite. Et puis vous avez, là, vous pouvez piocher des informations aussi. Les notes d'intention, à la fois sur le scénario, donc pourquoi on a fait ce film, qu'est-ce qui nous a inspiré, etc. La note d'intention des scénaristes. Des notes d'intention graphiques aussi, hein, de la part du réalisateur et voilà, la note de réalisation, la méthode des sentiments. Donc, ils abordent du coup des sujets sur lesquels on a des sujets dont on a parlé. Mais voilà, là, vous avez des choses un peu plus poussées là-dedans. Des intentions de réalisation sonore aussi, on en parlait. Et puis, les différents dessins préparatoires qu'on retrouve dans le film. Voilà, donc moi, je trouve que c'est toujours des. C'est ce qu'on appelle les posings, où on vient mettre en scène nos personnages et montrer à quoi ils ressemblent. Voilà, ça peut être intéressant, même pour une simple iconographie, ça peut vous servir. Celui des Astres Immobiles, malheureusement, on peut le consulter en ligne, mais je n'ai pas réussi à le télécharger. Je vous mettrai le lien pour aller le voir aussi